Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment la mafia s'est enrichie sur le dos des aînés. Un texte de Vincent Larouche et Daniel Renault paru le 20 octobre 2025 dans La Presse. La mafia montréalaise s'est enrichie outrageusement ces dernières années grâce aux fraudes de type grands-parents qui se répandaient comme un cancer aux États-Unis. Un flot de diamants importés de New York a permis de rapatrier au Québec les profits de ce cruel racket, avec l'aide de bijoutiers peu scrupuleux. Des documents obtenus par la presse démontrent pour la première fois les ramifications du réseau. « S'il vous plaît, l'ami, cette semaine j'aurai besoin de la viande pour le barbecue jeudi. » Le message texte est apparu en milieu de matinée le 7 septembre 2020 sur le téléphone du Montréalais David Anthony D'Irienzo. Il a regardé son appareil et a reconnu l'expéditeur. Nul autre que Francesco Sollecito, frère du co-chef du clan sicilien de la mafia à Montréal. Le langage codé était clair. L'organisation de D'Irienzo roulait sur l'or grâce aux fraudes ciblant les personnes âgées. Chaque semaine, il devait donner à manger à la mafia, c'est-à-dire lui verser une partie de ses profits. Par son message, Sollecito lui annonçait que le paiement du tribut hebdomadaire était devancé à jeudi. D'Irienzo s'est exécuté. Son chauffeur s'est rendu dans un restaurant italien d'Antique Quartier-Ville pour remettre l'argent à Francesco Sollecito. La rencontre a été brève. Sollecito s'est levé et est parti vers un café du quartier Saint-Michel, bien connu pour servir de cache de drogue et d'argent. Il y est entré en tenant des liasses, en est ressorti les mains vides. Dissimulé à proximité, des policiers de l'équipe de filature de la Sûreté du Québec avaient capté toute la séquence. Un meurtre comme point de départ. La semaine dernière, au palais de justice de Montréal, D'Irienzo et plusieurs de ses subalternes ont plaidé coupables à une série d'accusations criminelles pour leur participation à un réseau de fraude de type grands-parents. Tous avaient été arrêtés en 2023 dans le cadre du projet Partenariat, une enquête conjointe de la Sûreté du Québec et du FBI américain. La presse a pu consulter des centaines de pages de documents judiciaires inédits déposés devant les tribunaux canadiens et américains en lien avec cette enquête. La preuve révèle les sommes colossales qui étaient en jeu, mais aussi le nombre insoupçonné d'intervenants qui prenaient leur part des profits. Mafieux, blanchisseurs d'argent, facilitateurs. Beaucoup de gens bénéficiaient des fruits du crime sans avoir à se salir les mains en participant directement aux fraudes. La plupart n'ont jamais été accusés. C'est un meurtre qui a d'abord lancé la police sur les traces du réseau au Québec. Le 10 mai 2019, Éric Francis Desouza, 24 ans, a été abattu dans un restaurant du quartier 10-30. Les policiers ont vite constaté que la victime, tout comme ses amis qui étaient attablés avec lui, étaient impliqués dans des fraudes ciblant les personnes âgées. Desouza était tombé en disgrâce auprès du groupe avant d'être exécuté froidement. La Sûreté du Québec a alors commencé à étudier le fonctionnement du réseau grâce à l'écoute électronique, à des opérations de filature et à la collaboration précieuse d'informateurs confidentiels. David Anthony D'Irienzo chapeautait plusieurs cellules de fraudeurs qui installaient leur centre d'appel dans des logements du Grand Montréal loués sur Airbnb. Le réseau achetait à fort prix des listes de sollicitations indiquant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le revenu estimé de citoyens américains âgés de 70 à 95 ans. Il utilisait des téléphones prépayés et appelait toujours vers les États-Unis afin de créer une distance avec les victimes et de compliquer le travail des autorités. Le scénario est désormais bien connu. Les arnaqueurs se faisaient passer pour le petit-fils de la victime, disaient avoir été arrêtés et demandaient de l'argent pour être libérés sous caution. Un complice se faisait passer pour un policier, un avocat ou un juge prenait ensuite le relais. Il demandait d'envoyer l'argent dans un colis par UPS ou FedEx. Un complot cruel. C'est un complot cruel, a souligné le procureur fédéral américain Sean R. Delaney lors d'une audience devant un tribunal de Baltimore. Les fraudeurs injuriaient, harcelaient, tourmentaient les personnes âgées et vulnérables. Ils ont bombardé d'appels une dame tout en sachant qu'elle était en train d'assister à des funérailles. À une autre qui leur expliquait qu'elle souffrait de sclérose en plaques, ils ont suggéré de réhypothéquer sa maison pour faire un versement. Les policiers entendaient les fraudeurs se moquer de la misère des victimes lorsqu'ils raccrochaient. Plusieurs fois, les enquêteurs québécois ont demandé au FBI d'intervenir pour empêcher une victime de verser l'argent demandé après l'avoir entendu se faire arnaquer grâce à l'écoute électronique. On n'a laissé aller aucune infraction. Il n'en était pas question, a raconté à la presse l'inspecteur Martin Robert, qui était à l'époque le lieutenant responsable de l'équipe d'enquête. La Sûreté du Québec a même demandé l'envoi d'urgence d'une ambulance chez une victime qui avait eu un malaise lors d'une conversation téléphonique avec un fraudeur. David Anthony Di Rienzo prétendait disposer de 30 équipes chargées de collecter l'argent à travers les États-Unis. Des jeunes désœuvrés, en quête d'argent rapide, sillonnaient le pays, se faisaient payer le transport et le logement, ciblaient des maisons inoccupées ou faire livrer des paquets contenant l'argent. L'adresse était fournie aux victimes, qui croyaient l'envoyer à un juge ou à un avocat. Les collecteurs attendaient le livreur, ramassaient le colis, puis disparaissaient. Des bijoutiers pour blanchir l'argent. L'ampleur des sommes dérobées est difficile à chiffrer. Le réseau opérait déjà depuis 5 ans lorsque l'enquête a démarré. Chose certaine, l'argent coulait à flot. Une analyse du téléphone de Paul Letourneau, l'un des accusés ayant plaidé coupable, a démontré aux policiers qu'en seulement 4 jours, il avait fait 487 appels et dérobé un total de 50 000 $. Aux États-Unis, un collecteur d'argent devenu délateur estimait que son équipe pouvait ramasser de 30 à 100 paquets par semaine. Lors d'une semaine particulièrement lucrative, son groupe avait ramassé 600 000 $. Traverser la frontière avec de telles sommes en liquide aurait attiré l'attention des autorités. Les fraudeurs avaient donc recours au service de blanchisseurs d'argent. Les fonds amassés sur le sol américain étaient apportés chez un courtier en pierres précieuses accommodant de la 47e rue à Manhattan, en plein district des Diamants. Un bijoutier montréalais complice du réseau se rendait ensuite chez le courtier new-yorkais pour y prendre possession d'un lot de diamants, ce qui semblait naturel, vu son métier. Ce complice, Abid Jing Turk, vice-président de Bijoux Marsan, conservait ensuite les pierres à sa bijouterie de la rue Sainte-Catherine et remettait la somme d'argent équivalente à David Di Rienzo, tout en conservant une coquette commission. Intercepté par des enquêteurs américains lors d'un de ses voyages, Jing Turk a tout avoué. Il estime avoir échangé pour 2 millions de dollars américains en bijoux pour David, explique une enquêteuse de la Sûreté du Québec dans une déclaration déposée à la Cour. Il a aussi avoué avoir collecté directement 1,5 million de dollars américains additionnels auprès des équipes de collecteurs chargées de ramasser les paquets, une somme qu'il a aussi convertie en diamants. Le bijoutier a juré aux autorités qu'il ignorait que l'argent provenait de fraude. Il croyait plutôt être au service de narcotrafiquants, disait-il. Il n'a été accusé de rien au terme de l'enquête. « Je n'ai aucun commentaire à faire », a-t-il laissé tomber lorsque joint par la presse. Sur la PCU. Pendant des années, les fraudeurs montréalais ont vécu dans le luxe grâce au crime. Pendant la pandémie de COVID-19, Di Rienzo recevait de surcroît la prestation canadienne d'urgence, PCU, mise en place pour aider les gens ayant perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire. David Anthony Di Rienzo questionne sa mère à savoir si le dernier chèque est arrivé. Il se plaint d'avoir trop d'argent dans son compte, a noté une policière dans son résumé d'une séance d'écoute électronique réalisée pendant cette période. L'organisation devait toutefois verser une part importante de ses revenus à ses protecteurs de la mafia. Di Rienzo était en communication constante avec Francesco Sollecito et le rencontrait régulièrement avec ses complices. Les policiers ont par ailleurs constaté que ce dernier chapeautait une autre organisation active dans le même type de fraude, en parallèle. Tous ces gens devaient verser une part importante de leurs profits aux bons du crime organisé. C'était le coup pour travailler dans le milieu interlope. Di Rienzo a été enregistré par la police alors qu'il expliquait le principe à un comparse. « Si je collecte 100 000 d'un kid à Boston, par exemple, il y a 50 000 qui vont automatiquement à Sollecito », lit-on dans un résumé d'écoute déposé à la cour. Di Rienzo affirmait que si des gens ne versaient pas leurs redevances, ils risquaient de subir les foudres du « pastagai », en référence à un mafieux. Francesco Sollecito n'a pas été arrêté dans le cadre du projet Partenariat, mais les policiers ont épinglé plus d'une douzaine de suspects dans la région de Montréal en 2023. L'un d'eux a écopé d'une peine à purger à domicile la semaine dernière. Mais le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé qu'il réclamerait des peines de prison pour plusieurs des autres. Aux États-Unis, des collecteurs d'argent ont écopé de lourdes peines. Les enquêteurs ont travaillé très fort. C'est une fierté de s'attaquer à une organisation criminelle qui abuse des personnes vulnérables, affirme l'inspecteur Martin Robert. Ça vient dire à tous les criminels, même si vous décidez d'aller aux États-Unis, on va vous trouver, vous arrêter et vous traduire devant la justice, conclut l'inspecteur. C'était « Comment la mafia s'est enrichie sur le dos des aînés », un texte de Vincent Larouche et Daniel Renault, paru le 20 octobre 2025 dans La Presse.
La ville de Québec ne soignera plus. Un texte de la rédaction paru le 22 octobre 2025 dans La Voix de l'Est. Depuis quelque temps, en tant que médecin résident en psychiatrie, nous assistons, impuissants, à des décisions prises au sein même de notre système de santé qui menacent non seulement la qualité des soins offerts aux personnes vivant avec des troubles mentaux, mais aussi l'avenir de notre formation en tant que futurs psychiatres. Par cette lettre, nous souhaitons exprimer publiquement nos inquiétudes et dénoncer des coupes qui, une fois de plus, se feront au détriment des patients. Dès le début de notre formation, nous apprenons que toute approche en santé mentale se doit d'intégrer un volet biologique, psychologique et social afin de comprendre la personne dans sa complexité et sa globalité. Que ce soit dans nos milieux de stage ou lors de nos gardes à l'urgence psychiatrique, nous nous retrouvons face à des êtres humains en détresse que l'on tente d'orienter vers les ressources les plus appropriées. Mais alors que les urgences débordent et que, parallèlement, la pression monte pour libérer des lits, les alternatives à l'hospitalisation sont successivement démantelées, pièce par pièce. Force est de constater que ces ressources se font de plus en plus rares à Québec, comme en témoigne la fermeture de 3 d'entre elles depuis le début de 2025, soit le Centre de traitement psychanalytique 388 pour les jeunes psychotiques, l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean qui traitait les troubles de la personnalité et plus récemment, l'hôpital de jour des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Ce genre de décision renforce les inégalités d'accès aux soins déjà présentes. Faute de ressources publiques, certains patients n'auront d'autre choix que de se tourner vers le système privé pour accéder à des psychothérapies qui sont pourtant reconnues comme un traitement de première ligne pour bon nombre de troubles de santé mentale. Il est de plus en plus difficile d'offrir ce qu'on sait être les meilleurs soins. Ce mouvement forcé vers le privé compliquera à nouveau l'accès aux services pour les individus les plus vulnérables et entraînera forcément une perte d'expertise dans notre système public. Les récentes coupures dans les programmes offerts aux patients limiteront nos possibilités de formation dans des milieux où les interventions psychothérapeutiques et sociales étaient mises de l'avant, souvent en concertation avec d'autres professionnels de la santé. Déshumanise encore un peu plus. De ce fait, on déshumanise encore un peu plus la psychiatrie en renforçant un modèle dans lequel le psychiatre est réduit à son rôle de prescripteur de pilules. Si les psychiatres ne sont plus que formés dans une vision pharmacocentriste, cela appauvrira notre compréhension des enjeux de nos patients et la qualité des soins que nous pourrons leur offrir. Il est inconcevable de devoir quitter notre milieu dit universitaire pour se former sur le modèle des hôpitaux de jour en santé mentale, modèle reconnu pourtant efficace dans la littérature, selon l'analyse même du CIUS de la capitale nationale de septembre 2024. De par le lien privilégié que nous développons avec nos patients, nous ressentons le besoin de nous mobiliser pour défendre la qualité des soins que nous pourrons leur offrir dans le futur. À cet égard, rappelons qu'il existe une réelle richesse à proposer une diversité d'options thérapeutiques et qu'il est préjudiciable de croire qu'un seul modèle, comme l'hospitalisation, puisse convenir à tous. Nous refusons de rester silencieux devant ce retour à l'institution globale qui se dessine insidieusement et qui, comme cela a été démontré par le passé, est souvent inadaptée, voire nuisible pour certains patients, entraînant, entre autres, perte d'autonomie et régression. Dans un monde où notre système hospitalier craque déjà, il faut résister à la tentation de niveler vers le bas en coupant davantage dans une branche longtemps négligée de la médecine. C'était « La ville de Québec ne soignera plus », un texte de la rédaction paru le 22 octobre 2025 dans La Voix de l'Est.
Étudier une population en santé pour découvrir des maladies rares. Un texte de Marine Gay paru le 21 octobre 2025 dans La Voix de l'Est. Une récente étude du professeur de l'UQAC, Simon Girard, a permis de faire d'importantes découvertes sur le portrait des maladies génétiques rares au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le plus surprenant, c'est que ces découvertes ont été faites à partir d'individus en santé. Simon Girard et son équipe de chercheurs s'y sont pris un peu différemment pour faire l'étude des maladies génétiques rares liées à l'effet fondateur, peuplement européen au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, plutôt que d'analyser les maladies connues à partir des patients, ils ont pris les données d'une population en santé. Moi, je me demandais s'il pouvait exister des maladies génétiques rares au Saguenay, qui sont là, dont les gens souffrent, mais qu'on n'a jamais vraiment rapportées pour plein de raisons, explique d'entrée de jeu le chercheur. Grâce à la méthodologie développée par Simon Girard, qui s'appuie sur des recherches dans la biobanque populationnelle Carthagène, deux résultats surprenants ont été observés dans l'étude « Rare Diseases Load Through the Study of a Regional Population ». 1. Parmi toutes les maladies identifiées, seulement la moitié était déjà bien connue et répertoriée. Avec la collaboration de neurologues, pédiatres, conseillères en génétique et chercheurs, plusieurs nouvelles maladies ont pu être confirmées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2. Deux personnes sur trois au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont porteuses d'un gène associé à une maladie rare. Ce chiffre est plus élevé que ce qui avait été estimé auparavant. Toutes les maladies qu'on s'attendait à trouver, on les a trouvées. Mais ce qui a été quand même surprenant, c'est qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup de maladies qu'on n'avait jamais rapportées encore comme étant des maladies à effet fondateur dans la région, souligne le chercheur. Être porteur. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est déjà possible de passer des tests afin de savoir si l'on est porteur du gène d'une maladie rare connue. Selon Simon Girard, qui travaille en collaboration avec le chercheur Luigi Bouchard, deux nouvelles maladies ont été ajoutées, l'été dernier, à la liste pour les tests. Le professeur souligne qu'une vingtaine d'autres maladies pourraient s'ajouter éventuellement aux tests et que plusieurs de celles-ci ont été identifiées dans cette étude. Même si les résultats confirment de nouvelles maladies génétiques, il n'y a pas lieu de s'inquiéter selon le chercheur. Étant donné qu'il faut que les deux individus d'un couple soient porteurs du même gène pour que l'enfant développe la maladie, elles se font plutôt rares. Être porteur, généralement, ça n'amènera aucun aspect négatif. Nous, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les stratégies pour identifier les couples qui seraient porteurs de la même maladie, parce que c'est là que ça peut être problématique. Je pense qu'avec de meilleures connaissances, on peut bonifier l'offre offerte à la population, pas pour prendre une décision pour les couples, mais pour que eux aient la meilleure information quand ils prennent leur décision, dit Simon Girard. La suite. Simon Girard n'a pas la prétention de désormais connaître toutes les maladies génétiques rares sur le territoire. Ce dernier souligne qu'une nouvelle recherche est en cours pour aller encore plus loin dans l'étude du portrait global de ces maladies en région, et ce, avec un échantillon d'individus encore plus grand. De plus, la méthodologie innovante du chercheur peut tout à fait être reprise dans d'autres régions et d'autres populations du Québec. Simon Girard mentionne d'ailleurs que son équipe est prête à donner toutes les informations utiles à d'autres équipes qui souhaiteraient mener cette recherche ailleurs. Ça s'exporte très très bien partout. Tout ce qu'on a fait dans cette étude-là, on le met à la disposition de la communauté académique. Disons que quelqu'un voudrait refaire cette étude-là en Gaspésie ou en Abitibi, il n'aurait qu'à nous contacter et on lui transmettrait tous les outils d'analyse, confirme le professeur et chercheur. C'était « Étudier une population en santé pour découvrir des maladies rares », un texte de Marine Gay paru le 21 octobre 2025 dans La Voix de l'Est.
Une expérience unique pour les familles, la journée de l'aviation pour l'autisme à l'aéroport international Jean Lesage de Québec, un texte de la Fondation de l'autisme de Québec paru le 23 octobre 2025 dans Cision. La Fondation Air Canada, l'aéroport international Jean Lesage de Québec, YQB, la Fondation de l'autisme de Québec et Autisme Québec unissent leurs forces pour offrir la Journée de l'aviation pour l'autisme le dimanche 26 octobre de 7h à midi à l'aéroport international Jean Lesage de Québec. Cette activité inclusive et rassurante permettra aux personnes autistes et à leurs familles de découvrir le parcours aéroportuaire dans un environnement calme et structuré. L'objectif, démystifier les voyages en avion et réduire l'anxiété liée aux déplacements aériens. Les participants auront la chance de vivre toutes les étapes d'un vol, de l'enregistrement à l'embarquement, avec le soutien d'une équipe attentionnée. Citation : Pour les familles avec un enfant autiste, prendre l'avion peut représenter un immense défi. Les vols de familiarisation offrent non seulement des outils pour apprivoiser cette expérience, mais aussi la confiance pour rêver plus loin. Ces expériences permettent de surmonter des barrières souvent invisibles en créant un environnement rassurant et adapté où chaque enfant peut découvrir le plaisir de voyager en toute confiance. Fin de citation, Brigitte Saint-Pierre, directrice de l'engagement communautaire et porte-parole de la Fondation Air Canada. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national Journée de l'aviation au service de l'autisme, mis sur pied par la Fondation Air Canada. Ce programme permet aux enfants autistes et à leurs familles de se familiariser concrètement avec les processus par la pratique. Citation : C'est un privilège pour nous d'accueillir à YQB les familles participantes afin de leur faire vivre une expérience du parcours passager à la fois positive et rassurante. Ce moment de découverte et d'apprentissage illustre notre volonté commune de rendre le voyage accessible à toutes et à tous. Un grand merci à Air Canada, à la Fondation Air Canada, à Autisme Québec et à la Fondation de l'Autisme de Québec pour leur engagement et leur précieuse collaboration à la réalisation de cette toute première édition à Québec. Fin de citation. Stéphane Poirier, président et chef de la direction, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, YQB. Cette expérience permet aux familles de vivre un moment d'apprentissage dans un cadre sécurisant, tout en renforçant leur confiance pour de futurs déplacements. La Fondation de l'Autisme de Québec et Autisme Québec sont fiers de collaborer à cette belle initiative qui contribue à rendre le monde du voyage plus accessible, inclusif et bienveillant. C'était une expérience unique pour les familles, la Journée de l'aviation pour l'autisme à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, un texte de la Fondation de l'Autisme de Québec paru le 23 octobre 2025 dans Cision.
La Nouvelle-Écosse lance une révision des soins à domicile. Un texte de la rédaction paru le 20 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le gouvernement de Tim Houston confie un contrat de réévaluation des soins à domicile de la province à l'entreprise Davis Peer Consulting, sans appel d'offres. Le contrat de 2,18 millions sur 2 ans vise à rendre le système plus efficace et à renforcer la communication au sein des services, selon la ministre provinciale des aînés et des soins de longue durée, Barbara Adams. La ministre dit qu'un appel d'offres n'est pas nécessaire, car Davis Peer connaît déjà bien le problème et parce que le temps presse alors que les soins à domicile sont minés par des problèmes dans le système de réservation et d'annulation des visites. Le syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse constate par exemple que des infirmières se présentent parfois au domicile d'un patient pour découvrir que celui-ci n'est pas là ou a annulé le rendez-vous sans que l'infirmière en soit informée. Des trajets inutiles. La présidente du syndicat, Janet Hazelton, cite aussi l'exemple d'une infirmière qui a dû faire l'aller-retour Truro-Shubenacadie, soit 1 heure de trajet, 2 fois dans une même journée, alors qu'elle aurait pu rester sur place pour les 2 rendez-vous. Au lieu d'envoyer 2 infirmières à Louisbourg, on pourrait n'en envoyer qu'une pour effectuer les 2 visites, ajoute-t-elle. Par ailleurs, Janet Hazelton note que les évaluations de sécurité ne sont pas toujours faites avant qu'une infirmière se présente au domicile d'un nouveau patient. J'espère que Davis Peer Consulting va rencontrer les infirmières et d'autres fournisseurs de soins de santé pour leur demander ce qu'il faut améliorer, dit-elle. C'était « La Nouvelle-Écosse lance une révision des soins à domicile ». Un texte de la rédaction paru le 20 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada.